d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahman Diaye et Claire Morin-Jubour avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui, au sommaire ce soir.
Élection présidentielle au Malawi ce mardi, Peter Mutharika brigue un second mandat face à 6 autres candidats.
Au Soudan, les chefs de la contestation brandissent la menace d'une grève générale face à l'impasse dans les négociations.
En Algérie, quelques 2000 étudiants et enseignants manifestent pour réaffirmer le rejet de la présidentielle prévue le 4 juillet.
L'ancien conseiller juridique de la Maison-Blanche ne s'est pas présenté ce matin pour son audition devant la Chambre des représentants sur instruction du président.
En partie magazine, nous ferons le point sur la grève qui paralyse le secteur de la santé au Burkina.
Les malades sont en train de repartir, puisque les stagiaires les rejettent et disent qu'ils ne travaillent pas. Sans les titulaires, les stagiaires ne peuvent rien faire.
Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais tout d'abord le journal.
Le rapatriement de la dépouille et les funérailles de l'ex-opposant Étienne Tshisekedi vont avoir lieu entre le 30 mai et le 1er juin. Le père du nouveau président Félix Tshisekedi était décédé à Bruxelles le 1er février 2017, en pleine période de tensions politiques sous l'ancien régime du président Joseph Kabila. Son corps reposait depuis dans la capitale belge, faute d'un accord politique entre l'ancien régime et la famille sur son rapatriement et l'organisation des funérailles.
Au Cameroun, un bébé de 4 mois a été tué par balle hier, jour de la fête nationale, dans une localité de la région anglophone du Sud-Ouest où un affrontement entre séparatistes et l'armée a été signalé. Plusieurs réactions d'indignation d'internautes ont été enregistrées sur les réseaux sociaux, mais l'armée mise en cause n'a pas encore réagi.
Élection présidentielle au Malawi, un scrutin à un seul tour qui s'annonce serré entre le sortant Peter Mutharika et deux sérieux adversaires qui ont fait de la lutte contre la corruption leur thème de campagne. Les Malawites renouvellent aussi leurs députés et conseillers locaux. Nathalie Barge.
Sept candidats sont en lice pour la présidentielle, mais le scrutin se joue entre Peter Mutharika, son vice-président Saulos Chilima et le chef de l'opposition Lazarus Chakwera. Lors de sa campagne, le président sortant a défendu son bilan, notamment l'amélioration des infrastructures routières. Mais ses deux principaux adversaires, Lazarus Chakwera, chef du parti du Congrès du Malawi, et Saulos Chilima, du Mouvement Uni de Transformation, ont dénoncé la corruption qui a entaché sa présidence. Peter Mutharika s'est retrouvé impliqué dans un scandale de pots de vin à la suite de l'attribution d'un contrat de millions de dollars à la police. « Nous devons mettre fin à la corruption », a insisté pendant la campagne Lazarus Chakwera, qui a reçu le soutien de l'ex-présidente Joyce Banda. Saulos Chilima espère de son côté créer la surprise après avoir claqué la porte l'an dernier du Parti démocratique progressiste au pouvoir. Les premiers résultats sont attendus mercredi soir.
Au Zimbabwe, 4 militants des droits de l'homme ont été interpellés à leur retour au pays et leurs téléphones et ordinateurs confisqués selon leurs avocats. Ces interpellations interviennent quelques jours après la publication d'un article dans le journal d'État The Herald affirmant qu'un groupe d'organisations en lien avec le parti d'opposition MDC se préparait à causer des troubles civils le mois prochain. L'ONG Coalition de la crise au Zimbabwe a dénoncé les arrestations.
Impasse au Soudan dans les négociations avec les militaires. Désormais, les chefs de la contestation veulent organiser une grève générale pour faire céder l'armée. Yacouba Ouedraogo, vous avez plus de précisions.
Afin de parvenir pleinement à la victoire, nous appelons à une grande participation à une grève politique générale, a annoncé l'Association des professionnels soudanais dans un communiqué. Les discussions d'hier n'ont pas abouti à un accord sur la présidence et le taux de représentation entre civils et militaires au sein du futur Conseil souverain censé assurer la transition. Les leaders des manifestations ont qualifié cette grève de devoir révolutionnaire, appelant à la désobéissance civile. Madani Abbas, un des responsables du mouvement de protestation, a indiqué que les dates de la grève et la désobéissance civile seraient annoncées plus tard. Depuis le 6 avril, des milliers de Soudanais participent à un sit-in devant le QG de l'armée pour réclamer le transfert du pouvoir aux civils. Malgré les désaccords, les deux camps ont annoncé dans un communiqué commun qu'ils souhaitent poursuivre le dialogue pour parvenir, je cite, à un accord répondant aux aspirations du peuple soudanais. À la tête du pays pendant près de 30 ans, Omar el-Béchir a été destitué et arrêté par l'armée le 11 avril sous la pression du mouvement de contestation.
En Algérie, le chef d'état-major de l'armée appelle la population à la vigilance et à faire corps avec l'institution militaire alors que des milliers d'étudiants manifestent de nouveau ce mardi pour réaffirmer leur rejet de la présidentielle prévue le 4 juillet. Raïs Gironda.
Le peuple algérien se doit de faire preuve d'une extrême vigilance, de s'unir avec son armée et de ne pas permettre aux instigateurs de plans pernicieux de s'infiltrer dans les rangs du peuple, a estimé le général Gaïd Salah. Il a aussi affirmé que les procédures judiciaires lancées contre des personnalités et des hommes d'affaires liés au régime du président déchu Abdelaziz Bouteflika reposaient sur des indices solides. Mais ce mardi, selon plusieurs médias algériens, des milliers d'étudiants ont de nouveau manifesté dans plusieurs villes du pays, dont la capitale, appelant à nouveau au report de la présidentielle, scandant « Gaïd Salah dégage ». Devenu de facto l'homme fort du pays depuis la démission le 2 avril du président Bouteflika, sous les pressions de la rue et de l'armée, le général Salah a demandé le maintien de la présidentielle prévue le 4 juillet pour élire un successeur à Bouteflika. Il estime irraisonnable et dangereux la revendication d'un départ préalable des personnalités du système au pouvoir.
L'émissaire de l'ONU pour la Libye a déclaré ce mardi que la bataille pour Tripoli n'est que le début d'une guerre longue et sanglante. Ghassam Salameh a réclamé devant le Conseil de sécurité des actions pour arrêter le flot d'armes arrivant dans le pays. La Libye est sur le point de tomber dans une guerre civile qui pourrait conduire à la division permanente du pays, a-t-il ajouté. Des nations alimentent ce conflit sanglant et les Nations Unies doivent y mettre un terme, a-t-il indiqué.
En Égypte, 16 djihadistes présumés ont été tués lors d'opérations de police dans le Sinaï, où les forces de sécurité combattent une branche du groupe État islamique. Selon le ministère de l'Intérieur, les suspects planifiaient des attaques contre des installations importantes et vitales et des personnalités. Depuis 2013, des centaines de soldats et policiers ont été tués dans des attaques attribuées à ces groupes armés.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde. Aux États-Unis, le bras de fer entre le président Donald Trump et les parlementaires démocrates se durcit. La Maison-Blanche a ordonné à son ancien conseiller juridique de ne pas répondre à une convocation du Congrès. Les précisions avec Jacques Aristide.
Les démocrates qui contrôlent la Chambre des représentants multiplient les enquêtes depuis le début de cette année. Le président Trump se dit victime d'un harcèlement. Hier, le ministère de la Justice s'est prononcé dans ce conflit pour la première fois avec un avis légal qui assure que les conseillers présidentiels ne sont pas tenus de témoigner devant le Congrès en raison de la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs. L'ancien avocat de la Maison-Blanche, Don McGahn, convoqué aujourd'hui au Capitole au sujet de l'enquête russe, ne s'est donc pas présenté. Pour le démocrate Jerry Nadler de la commission judiciaire de la Chambre, c'est le dernier exemple en date du dédain de l'administration pour le droit, dit-il. Autre rebondissement de cette saga, un juge fédéral a autorisé la Chambre hier à avoir accès aux informations sur la fortune personnelle et l'empire financier de Donald Trump avant son élection. Le président républicain a qualifié ce jugement d'insensé et déclaré qu'il allait interjeter appel tout en dénonçant une campagne purement politique menée à son encontre.
Tension politique dans le Golfe. Téhéran a mis en garde Washington contre les, je cite, conséquences douloureuses d'une escalade. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran sont exacerbées depuis une dizaine de jours après l'annonce américaine du renforcement de sa présence militaire au Moyen-Orient, notamment à destination du Golfe, pour faire face à de présumées menaces iraniennes.
En Argentine, l'ex-présidente Cristina Kirchner est jugée pour la première fois pour des malversations dans l'attribution de marchés publics en Patagonie. La candidate à la vice-présidence pour les prochaines élections d'octobre est poursuivie dans plusieurs affaires pour blanchissement, enrichissement personnel, détournement de fonds ou pour avoir reçu des pots de vin.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nani Talani.
Lancement de Sublime Côte d'Ivoire, un programme d'un coût de 3200 milliards de francs CFA visant à développer le tourisme étranger. Le ministre du Tourisme, Siondou Fofana, a révélé que l'ambition de la Côte d'Ivoire est de devenir d'ici à 2025 la cinquième destination touristique africaine, contribuer à 12% du PIB contre 5,5% actuellement et créer 365 000 emplois contre 270 000 générés en 2016. Au Zimbabwe, les prix des carburants ont augmenté aujourd'hui de près de 50% suivant une annonce de l'autorité de régulation de l'énergie. Le tarif à la pompe d'un litre d'essence est passé de 3,42 à 4,97 RTGS, la monnaie d'échange locale, et celui d'un litre de diesel de 3,38 à 4,89 RTGS. Cette mesure intervient au lendemain de la décision de la Banque centrale zimbabwéenne de supprimer une forme de subvention qu'elle accordait aux sociétés locales pour acheter du pétrole sur le marché international. Pour terminer, dès juillet, les prix de l'électricité vont de nouveau augmenter en Égypte de 14,9% en moyenne dans le cadre d'une politique de réforme visant à stimuler l'économie pendant l'année budgétaire 2019-2020. Le FMI estime que ces mesures sont essentielles pour encourager une utilisation efficace de l'énergie et pour favoriser les dépenses hautement prioritaires dans les domaines de la santé et de l'éducation.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Nous sommes à un mois, jour pour jour, de la CAN 2019 et la Côte d'Ivoire a dévoilé son programme de préparation.
Oui, le sélectionneur Ibrahim Camara a prévu 2 stages et 3 matchs amicaux pour son groupe. Le premier stage débutera le 31 mai pour s'achever le 8 juin avec un match amical contre la Gambie le 7 juin à Amiens en France. Puis à partir du 10 juin, cap sur Abu Dhabi et les Émirats Arabes Unis pour le second stage qui sera marqué par 2 matchs, un contre l'Ouganda le 14 juin et un autre face à la Libye 4 jours plus tard. Le sélectionneur annoncera une présélection le 31 mai pour le premier stage et à l'issue du match contre la Gambie, les 23 pour l'Égypte seront dévoilés. En Égypte, la Côte d'Ivoire figure dans le même groupe que le Maroc, l'Afrique du Sud et la Namibie.
Quelqu'un qui ne sera pas à la CAN, c'est Asamoah Gyan qui a pris sa retraite internationale.
Oui, l'attaquant ghanéen de Kayseri Sport évoque plusieurs raisons, dont celle du capitana. D'après de nombreuses publications au Ghana, Kwesi Appiah, le sélectionneur, s'apprêtait à retirer le brassard à Gyan au profit d'André Ayou. Je suis dans cette équipe depuis 2003 et j'ai joué avec certains membres de l'encadrement qui sont mes aînés. Si la décision du coach est de confier le brassard à un autre joueur, alors que je fais toujours partie de l'équipe, alors je me retire personnellement, a écrit le recordman de but avec les Black Stars. Asamoah Gyan est aussi le seul joueur ghanéen à avoir inscrit au moins un but lors de ses 6 participations à la CAN et reste le meilleur buteur africain en Coupe du Monde.
Xavi a disputé le dernier match de sa carrière en Iran.
Et oui, à 39 ans, l'ex-milieu de terrain international du FC Barcelone aux 133 sélections a disputé hier à Téhéran le dernier match de sa carrière sous le maillot du club Qatari d'El Saad face à Persepolis qui l'a emporté 2-0, 4 fois vainqueur de la Ligue des Champions et 8 fois champion d'Espagne avec Barcelone. Xavi, qui a l'intention de devenir entraîneur au Qatar, compte également une victoire en Coupe du Monde en 2010 et 2 titres de champion d'Europe 2008 et 2012 avec la Roja.
NBA, Golden State se qualifie pour sa 5e finale de suite.
Oui, le double champion en titre s'est qualifié pour sa 5e finale de suite en s'imposant 119 à 117 après prolongation à Portland. Les Warriors ont remporté la finale de la conférence Ouest 4-0 face aux Blazers. Ils sont la 2e franchise dans l'histoire de la NBA à disputer 5 finales de suite, un exploit qui n'avait plus été réalisé depuis 53 ans. Golden State affrontera en finale pour le titre à partir du 30 mai. Les Milwaukee Bucks où les Toronto Raptors sont opposés en finale de la conférence Est. Milwaukee mène 2-1 avant le match numéro 4 qui aura lieu cette nuit à Toronto.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Abdourahmane Diaye et Claire Mohenjebourg, toujours avec vous pour la seconde partie du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place au dossier du jour.
Grève générale des agents de santé au Burkina Faso. Une grève déclenchée par le Sancha, une grève de 96 heures. Le syndicat, donc le Sancha, c'est le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale pour obliger le gouvernement à satisfaire ses revendications. Dans la capitale, depuis ce matin, plusieurs centres de santé sont fermés et d'autres tournent au ralenti. Constat dans ce reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Tôt ce matin, comme d'habitude, les patients se sont pressés au centre de santé et de promotion sociale du quartier Wemtenga pour des soins. Ils ont trouvé que l'entrée était fermée.
Je suis arrivé ici à 8 heures avec mon bébé que je suis venu soigner. Le docteur n'est pas là, tout est fermé. Je ne sais comment faire puisqu'on dit que partout c'est la même chose.
Dans ce centre de santé, tout est effectivement fermé, y compris le dépôt pharmaceutique. Un témoin présent dans un bureau adjacent d'état civil raconte.
Je suis arrivé à 7h30 ici et j'ai constaté que les malades viennent et puis ils repartent. Parce que les agents ont respecté leur grève, ils ne travaillent pas. Les malades sont en train de repartir, puisque les stagiaires les rejettent, ils disent qu'ils ne travaillent pas. Sans les titulaires, les stagiaires ne peuvent rien faire.
La grève va durer 4 jours selon les syndicats qui revendiquent ce qu'ils appellent la fonction publique hospitalière qui devrait les rassurer de meilleure rémunération. Au centre de santé du quartier de Dasasco, la porte est ouverte, mais les services sont aux arrêts. L'infirmière Marie-Madeleine Ilboudo en est le chef.
Depuis le matin, au niveau de la maternité, on a eu des femmes. Au niveau du dispensaire, on a eu des malades. Au niveau de la SMI, c'est des jours destinés à la pesée, à la vaccination. Pour ceux qu'on peut donner un rendez-vous, on donne. Pour celles où on ne peut pas donner de rendez-vous, on essaie de les diriger à un centre confessionnel à côté, voilà, à 500 mètres, donc, pour que au moins ceux ou celles qui sont dans l'urgence puissent trouver satisfaction.
Une situation mal accueillie par les usagers de ce CSPS.
Nous, la population, on suggère que le président n'a qu'à voir, au moins au niveau de la santé et au niveau de l'enseignement, là, pour qu'il n'y ait plus de grève. Ce matin-là, il y a des gens qui viennent. Ils savent même pas qu'il y a la grève. Bon, en cas d'urgence, là, si ces personnes-là, s'ils n'ont pas de moyens, là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs malades?
Une femme enceinte est arrivée ici pour les services de maternité et elle a trouvé porte close. Elle a décidé de rebrousser chemin à la maison. Si quelque chose arrive au bébé, que va-t-on dire? Ce n'est pas normal. Si ça continue comme ça, nous allons encore ressortir dans la rue. Avec l'arrêt complet sans service minimum disponible au niveau de nombre de centres de santé publics, les conséquences pourraient être dramatique pour les populations si aucune solution n'est trouvée avant la fin de la grève dans 4 jours. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Raïssa Girondin, en votre compagnie, quelles mesures ont été mises en place dans votre pays afin d'encourager la diversité culturelle? Quels sont ses bienfaits? Comment votre culture contribue au développement durable? Ce sont les questions posées ce soir dans À votre avis. Chaque année, le 21 mai, la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement célèbre non seulement la richesse des cultures du monde, mais aussi le rôle essentiel du dialogue interculturel pour la paix. Réagissez en direct à 18h en temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Laissez votre numéro sur notre page Facebook, nous vous rappellerons.
En RDC, près de 4 mois après son investiture, le président Félix Tshisekedi a procédé hier à la nomination de son premier ministre. Sylvestre Ilunga était jusqu'à sa nomination directeur général de la Société nationale des chemins de fer. Comment sont-ils arrivés à cette décision? Pour en savoir plus, Raïssa Girondin a joint le porte-parole du président Tshisekedi, Kasongo Mwema Yamba Yamba.
cette nomination du nouveau Premier ministre qui est attendue depuis plusieurs mois. Et c'est fait donc là maintenant. Il reste juste à voir les tractations qu'ils vont mener pour qu'on mette en place le gouvernement.
Comment le choix s'est porté sur Sylvestre Ilunga Ilunkemba?
La décision ne vient pas totalement du président de la République, parce que c'est une coalition qui s'est mise en place pour gérer le pays, le Front commun pour le Congo, FCC, et le CASH, le Cap pour le changement, qui réunit l'UNC de M. Vital Kamerhe et l'UDPS de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils se sont mis d'accord pour pouvoir travailler ensemble, mais il y a plus de députés qui appartiennent au FCC. Donc, c'est le FCC qui a proposé des noms au président Tshisekedi pour qu'il puisse en choisir un et le nommer comme Premier ministre. Il y a des conditions que le président avait posées au FCC. Je crois que vous avez appris qu'il y avait des noms qui avaient déjà été proposés au chef de l'État et que, fermement, il a dit « Je suis désolé, ça, je ne prends pas ». Et donc là, quand on a proposé le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkemba, c'est vrai que c'est un membre du PPRD, peut-être pas un cacique, hein, mais c'est quelqu'un qui est modéré, qui est dans le consensuel, qui a une grosse expérience en matière de gestion de la chose publique. Il a été plusieurs fois, 4 fois je crois, vice-ministre. Il a été 2 fois ministre, et pas dans n'importe quel ministère. Il a été ministre du Plan, il a été ministre des Finances. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez discret, que l'on ne connaît pas beaucoup dans le microcosme politique congolais, mais c'est quelqu'un qui a véritablement fait ses preuves.
Le Premier ministre Ilunga a annoncé la formation rapide de son gouvernement et en même temps, Lubumbashi a accueilli en grande pompe l'opposant Moïse Katumbi qui est revenu avec un message d'apaisement et je cite, il s'est dit prêt à condamner ce qu'il faut condamner, mais surtout à féliciter certaines actions du président Tshisekedi. Est-ce que vous voyez la possibilité d'un gouvernement inclusif?
À l'étape où en sont les choses et connaissant quand même le peuple congolais, il ne faut rien verrouiller. Et moi, je crois honnêtement, depuis que je fréquente le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est très ouvert. Mais je dis simplement, puisque le même Moïse Katumbi Chapwe a déclaré qu'il sera de l'opposition républicaine, donc il est à l'écoute. S'il y a des ouvertures qui permettent de faire quelque chose ensemble, bon, je pense que le président Félix Tshisekedi sera preneur. Mais pour l'instant, je crois qu'il va d'abord essayer de se mettre d'accord avec sa coalition pour trouver un gouvernement. Maintenant, bon, si plus tard il y a des experts, des gens comme ça qui mériteraient, de son point de vue, d'être associés à la gestion de la chose publique, je ne pense pas qu'ils hésiteraient souvent.
C'était Kasongo Mouema Yamba Yamba, porte-parole du président Félix Tshisekedi, joint à Kinshasa par Raissa Gironda.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nous restons en RDC où de nouveaux cas de personnes infectées par Ebola ont été constatés à Beni dans l'est du pays. Le cap des 1200 morts a déjà été dépassé. Dans le même temps, la résistance semble regagner de l'ampleur. Eddie Sango a joint le maire de la ville de Beni, Bwana Kabwa Nyoni.
Il y a eu recrudescence des cas d'Ebola. C'est parce que au niveau de Butembo, nous avons connu des cas malencontreux, de même qu'au niveau du territoire de Mambasa, en territoire de Ituri. Alors, depuis le mois d'avril, nous avons commencé à recevoir des cas pas originaires de Beni, mais en provenance de Butembo et de Ituri. Et il n'est que normal, c'est que quand ils arrivent à Beni, ils fassent certains contacts. Et ce sont certains de ces contacts aujourd'hui qui sont en train d'être enregistrés comme des nouveaux cas de maladie à virus Ebola au niveau de la ville de Beni. Nous-mêmes, nous déplorons le fait que la semaine antérieure, nous avions connu 8 cas, mais la semaine passée, nous sommes passés de 8 à 16 cas. Soit du simple au double. Et la sensibilisation continue pour que au courant de cette semaine, nous puissions voir les statistiques aller vers la baisse.
Il a été noté une certaine réticence qui remonte, notamment en rapport avec les enterrements sécurisés. Comment gérez-vous cela?
Jusqu'au mois de janvier, les cas étaient en diminution. La résistance, nous ne la connaissions pas. Je sais que la résistance en ce qui concerne les aides ou les enterrements dignes et sécurisés, c'est juste un cas qui a été enregistré dans un des quartiers en ville de Beni. Nous sommes en train de nous débattre pour que cette résistance, nous arrivions à la briser et qu'elle ne contamine pas les restes des quartiers. Voilà pourquoi dans les sentiments ou bien dans les situations qui nous caractérisaient avant, de sorte qu'on n'enregistre plus les cas de résistance vis-à-vis des équipes de la riposte. Et parmi ces équipes de la riposte, il faut aussi compter les équipes des entraînements dignes et sécurisés.
Pourquoi surtout il y a ces regains d'attaque?
Les cas des attaques des équipes de la riposte par les Maïmaï sont enregistrés en ville de Boutembo. La ville de Boutembo est distante de la ville de Beni de plus ou moins 54 km. Ces cas, nous ne les enregistrons pas au niveau de la ville de Beni. Et plutôt, ce sont les cas malheureux qui sont partis de Boutembo, qui font que Beni, qui est situé au croisement des routes nationales numéro 2 et des routes nationales numéro 44, qui fait qu'au niveau de Beni, il y aurait bien la maladie à virus Ebola.
C'était Bwana Kawa Nyoni, le maire de la ville de Beni, dans le Nord Kivu.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Journée électorale au Malawi face au président Peter Mutharika, candidat à sa propre succession. Deux rivaux principaux, il s'agit de Saulos Chilima et de l'ancien pasteur Lazarus Chakwera. Tous les trois ont mené une campagne électorale centrée sur le développement économique et sur des allégations de corruption. Arzuma Compaoré.
Partout au Malawi, les électeurs se sont rendus aux urnes mardi pour choisir un nouveau président et un nouveau parlement. Dans ce bureau de vote de Lilongwe, les responsables ont tenu à montrer des urnes vides avant de les sceller et de permettre au vote de commencer. Pour le président Peter Mutharika, candidat à un second mandat et critiqué pour corruption et favoritisme, la participation est essentielle.
Dans une démocratie, il est très important que les citoyens votent. C'est une responsabilité très importante. Cela montre que les gens ont du pouvoir et qu'en fin de compte, c'est eux qui vont décider qui dirigera ce pays.
Il fait face à un défi de taille. Chakwera, chef du principal parti d'opposition, le parti du Congrès du Malawi, qui s'est placé en deuxième position lors de la dernière élection en 2014. Après avoir voté à Lilongwe, celui-ci s'est dit confiant.
Je pense que nous avons organisé une formidable campagne, très différente de tous les autres partis. Nous sommes optimistes quant aux résultats. Au bout du compte, nous devons faire confiance à notre système démocratique et à la commission électorale malawite qui fera ce qui s'impose.
L'autre adversaire de taille de Mutharika, Chilima, a quitté le parti au pouvoir l'année dernière pour former le mouvement uni de transformation, tout en restant vice-président. Il a fait de la jeunesse son audience principale en faisant des pompes sur scène pendant la campagne, tandis que son épouse publiait une vidéo populaire de rap vantant ses qualités de président.
Il y a certaines choses, comme je l'ai souvent dit, qui ne sont pas correctes. Ce pays mérite mieux. Nous sommes en paix depuis 54 ans et nous méritons une économie bien meilleure et un peuple plus heureux.
Les électeurs espèrent que ces élections apporteront les changements nécessaires à l'amélioration de leurs conditions de vie.
J'ai déjà voté et j'espère que grâce à mon vote, certaines choses changeront de sorte que les personnes atteintes d'albinisme comme moi reçoivent une assistance adéquate.
J'ai voté et j'espère que le nouveau gouvernement construira de nombreux ponts afin que nos étudiants ne rencontrent pas de difficultés pour traverser les rivières et que nous ayons de nouveaux forages autour de Goliati. Nous avons également besoin de maisons supplémentaires pour les enseignants.
Le Malawi a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1964 et fut ensuite dirigé par Hastings Banda en tant qu'État à parti unique jusqu'aux premières élections multipartites de 1994. Fortement dépendant de l'aide étrangère, le pays doit souvent faire face à des sécheresses menaçant la vie de milliers de personnes. Les analystes s'attendent à un résultat serré entre les trois candidats.
Ainsi va le monde aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VO Afrique, mise en onde de Joselle Morissin, à la console Cédric Franklin, micro Clermont Jibour et Abdoulrahman Dia.
Restez avec nous. Tout de suite, un nouveau point sur l'actualité avec Henri Francisque, suivi d'À votre avis, présenté par Raïssa Girondin. Excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
VOA Afrique.